Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 5 décembre, c'est le retour de Cinérama après une petite semaine d'absence, où finalement, eh bien, il était question du Festa Film. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, Manu, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors, ben, comme chaque semaine, on va développer un sommaire. C'est plutôt vous, d'ailleurs, qui allez parler, parce que moi, j'ai fait très peu de choses. Moi, j'ai juste fait une interview de Romain Duris et du réalisateur de Populaire, qui est sorti la semaine dernière, donc Régis Roinsart.
Et de Déborah François.
Figure-toi que je ne l'ai pas mis dans le montage.
D'accord, oui, ok. Autant pour
moi. Alors toi Manu, tu vas nous parler de quoi?
Je vais vous parler du film Catastrophe sur le tsunami The Impossible et de la ressortie de L'étrange créature du lac noir, à la fois en Blu-ray mais aussi en salle, mais pas à Montpellier.
Un des premiers films en 3D relief, oui. Hein, alors que noir, enfin, il n'y avait toujours pas la couleur.
Oui. Il a été colorisé, en bleu je crois. Il y avait une histoire comme ça où ils ont colorisé le film à l'époque.
Et toi Marine, ce sera plus actuel?
Moi je vais commencer par Royal Affair, un film danois qui est d'ores et déjà sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger en 2013. Et je vais chroniquer Populaire justement que j'avais vu avec toi.
C'est Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence donc avec Royal Affair, alors un film danois, donc forcément avec Mads Mikkelsen dans le premier rôle. Il faut savoir que Royal Affair, c'est au cinéma scandinave ce que Amélie Poulain fut chez nous en son temps, c'est-à-dire une fierté nationale. Le genre de film dont l'arrivée est précédée par les superlatifs magistrales, éblouissants, somptueux, en somme un chef-d'œuvre qui ne nous laisse pas vraiment d'autre choix que celui de l'encenser. Alors tous les attributs du film d'époque sont irrémédiablement convoqués pour nous séduire. Contexte historique fastueux, acteurs torrides en costume à froufrous et intrigue au sein de la cour. L'ambition du film n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de bâtir un scénario autour d'un pan très important de l'histoire du Danemark et de l'expliquer ainsi au reste du monde qui l'ignore, tout en lui insufflant assez de romanesque pour captiver le public. On n'échappe pas donc dès le début à la galerie de personnages bien poudrés, hauts en couleur. La jeune oie blanche qui va devenir reine, le roi qui se vautre dans la luxure entouré de ses âmes damnées et le ténébreux médecin, adepte de la philosophie des Lumières.
Si tu réussis à attirer ton nouvel époux dans ta chambre la toute première nuit, ce sera pour toi et une très grande victoire.
Me rendrez-vous visite après la soirée dans ma chambre ?
Moi, roi Christian VII, juge que la sale mère immonde doit être éliminée.
Dites, un nouveau poste, ça vous dirait? Et qu'est-ce que je ferai? Médecin du roi.
Parce que j'aime boire de l'alcool, fréquenter les putes à grosse poitrine, et je me bagarre tout le temps.
Quel mal à ça.
Pourquoi m'a-t-on collé cette ennuyeuse petite dinde? Rendez-la drôle, hein? Je veux une reine drôle.
Est-ce que vous réalisez la considérable influence que vous avez sur Christian?
Vous pourriez faire un fantastique roi.
Alors le cahier des charges de la fresque historique est respecté à la lettre. Nous aurons donc la scène de bal, l'héroïne qui pleure à la fenêtre de son carrosse, les combats à l'épée, les étreintes derrière les portes dérobées, bref, tout pour obtenir le label film d'époque. D'autant qu'il fait preuve quand même d'un sacré souffle pour réussir à tenir la cadence et qu'il ne se départit jamais d'une belle intensité, réveillant un genre qui était parfois pesant. Il soutient par ailleurs sans mal la comparaison avec son illustre ancêtre Barry Lyndon, à la différence que l'histoire d'amour prend ici souvent le pas sur la grande histoire.
Je suis enceinte.
Mais c'est exact !
Non.
Vous détruisez ma nation, ce truc.
Dites roi, de faire comme ça me plaît.
Notre roi est sous le contrôle d'un adepte des Lumières.
Je n'ai aucune envie de devoir te faire trancher le cou.
Tu n'es qu'un foutu docteur provincial, mais tu te crois assez fort pour gouverner, hein ?
Je sais ce que j'ai vu.
La vivacité du film doit beaucoup aux comédiens, toujours à la lisière entre séduisant et perturbant, qui échappe au suranné par un jeu volontairement moderne. Royal Affair ne s'empêtre ainsi jamais dans une reconstitution plombante et figée. Le côté larmes et crinoline peut agacer si vous êtes plutôt branché frère Cohen, mais si vous voulez de la passion, bah le film demeure quand même un substitut idéal à Twilight. Donc c'est quand même pas mal du tout. Faut le reconnaître.
Ça a l'air d'être bavard quand on écoute la bande-annonce. Ça l'est ou pas ?
Non, justement, j'ai enlevé toute la partie de la bande-annonce où c'est « Ah Donc non, en fait, c'est pas si bavard que ça. Il n'y a pas non plus de l'action et des buildings qui explosent à chaque plan.
Allez, un autre film où ça, ça crie un peu et ça renifle surtout, d'après ce que j'ai entendu aussi pour, en ce qui concerne la bande-annonce.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Bon, donc The Impossible, sur la tragédie du tsunami qui a eu lieu, je crois que c'était en 2004, il me semble.
Je sais plus.
Voilà. Bon, ce qui frappe d'emblée avec le second film de Juan Antonio Bayona, après d'ailleurs le très très beau, moi j'aime beaucoup, L'Orphelinat, c'est la simplicité du postulat de départ. Une famille heureuse et charmante comme tout, presque tout. C'est la famille vraiment idéale, parfaite, tout va bien. Et donc elle débarque en Thaïlande. Le tsunami ravage tout sur son passage et cette gentille cellule familiale est soudain dispersée. Tout le reste du film tend vers un seul objectif, réunir à nouveau le père, la mère et les trois enfants qui sont dans la nature.
T'as eu des nouvelles de Maria de ton côté ?
Non, Henri, tu es le premier à appeler. Tout le monde va bien ? Henri ?
Il manque Maria et Lucas. La vague est montée, elle emportait tout avec elle. J'ai retrouvé Thomas, Simon, Maria et Lucas.
Henri, tu es toujours là ?
Je sais pas quoi faire, je sais pas où les chercher. Je vais te laisser, il y a plein de gens qui doivent téléphoner, ok ? Je te rappellerai plus tard.
Henri.
Merci.
Il faut que vous la rappeliez. Rappelez-le. Allez-y.
Oui, vous avez pu noter que le doublage est tout de même assez catastrophique et disons que cet extrait ne rend pas forcément compte de tout le film.
Hein. T'as essayé de renifler et de pleurer ?
Non, j'ai pas essayé. Dommage parce que les comédiens sont quand même bons, même si Ewan McGregor est un peu transparent et Naomi Watts qui reste immobile pendant tout le film est défigurée. Et il suffit de la voir, elle est très très bien. Voilà.
Elle est immobile et défigurée.
Oui, immobile à l'hôpital, tout son rôle. C'est
d'accord.
Oui.
C'est dommage qu'elle soit défigurée quand même.
C'est un peu dommage, mais elle reste jolie quand même.
Bon.
Donc par sa dimension émotionnelle, The Impossible parvient néanmoins à dépasser le film catastrophe traditionnel, en essayant de contourner donc les clichés du genre. Bayona ne joue pas uniquement sur un suspense factice ou nous brossant pendant des plombes les portraits d'une multitude de personnages, il va à l'essentiel. La catastrophe d'ailleurs arrive très rapidement, simplement elle provoque une émotion assez inédite. Les effets spéciaux sont par ailleurs époustouflants. Et cette production espagnole cherche évidemment à rivaliser avec les modèles américains tout en essayant d'adopter un point de vue plus personnel. On pense d'ailleurs souvent au cinéma de Spielberg par le déploiement de moyens, mais aussi par cette façon de mêler le spectaculaire avec l'intime. Bon, le récit ténu a du mal cependant à tenir la route après les ravages de la vague meurtrière. Les images chocs resteront gravées dans les mémoires et tout le travail du cinéaste consiste ensuite à faire le deuil du drame et à suivre chaque protagoniste dans leur quête de retrouvailles. Évidemment, à partir de là, ça se gâte un peu. Impossible n'évite pas toujours le bateau. Les enfants sont perdus, la mère est hospitalisée et le brave père de famille prend son courage à deux mains pour réunir à nouveau tout le monde. La simplicité édifiante du récit se heurte parfois à un sentimentalisme un peu lacrymal qui n'évite pas toujours une forme d'obscénité, tels ces gros plans sur les visages des enfants ou sur Naomi Watts à l'hôpital, là on la voit bien défigurée. Et tout ça est quand même un peu appuyé. Mais le pire se situe peut-être dans la représentation de la population locale qui n'existe que pour une fonction, porter assistance aux Occidentaux. Une faute de goût assez impardonnable mais qu'on retrouve à mon avis dans tout ce type de film. Il y en a joué un peu sur une corde raide. Il s'engouffre donc dans les clichés les plus éculés de ce type de cinéma. Mais en même temps, bon, c'est un peu la règle du jeu. Il filme un mélodrame avec une grande sincérité. Il crée surtout une tension, un suspense palpable grâce à une mise en scène très fluide et ample. Et il filme souvent à hauteur d'homme. La caméra, elle est souvent en mouvement, colle au basque des personnages et ne s'égare pas dans des plans d'ensemble inutiles ou des effets visuels inappropriés. Et en filmant l'après-catastrophe, The Impossible se démarque en fait de classiques comme Titanic, La Tour Infernale ou 2012. En fait, c'est un peu un ticket, je dirais, pour le réalisateur espagnol, pour Hollywood. Et c'est plus proche du cinéma ce que j'ai regardé de Spielberg que de ce balourd d'Emmerich.
C'est pas difficile de faire.
C'est pas difficile, mais donc je suis un peu mitigé. À la fois, je trouve que c'est très très bien fait, très efficace, mais il y a un côté tire-larme qui est un peu gênant aussi.
Qu'on a un peu entendu pendant l'extrait.
Oui, mais bon, voilà.
Et sinon, oui, quand tu dis production espagnole, c'est très étonnant quand même de pouvoir réunir Naomi Watts et McGregor.
C'est production espagnole et je pense anglaise aussi.
Ah,
anglo-espagnole. Mais c'est une production espagnole, c'est la plus grosse production espagnole de l'année. Hein.
D'accord.
Je croyais que c'était un film américain, moi.
Comme tout le monde.
Oui. Non, puis l'affiche, tout fait penser finalement à un film américain.
Surtout le titre, The Impossible.
Oui, mais le cinéma fantastique, notamment espagnol, si on regarde, y a les titres sont en anglais. Beaucoup, les castings sont en anglais. Et les films sont tournés pour, à part Rec et deux ou trois autres, beaucoup sont tournés en anglais en fait.
En anglais aussi.
Ouais. Fragile, je ne sais plus, L'Orphelinat était tourné en espagnol, mais Fragile était tourné en anglais. Il y en a quelques-uns comme ça.
Eh bien, merci pour ce point sur la production espagnole. Après l'impossible, voici Populaire.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Rose Pamphile n'a qu'un rêve, quitter sa province et son père pour travailler en ville comme secrétaire. Elle rencontre ainsi Louis Echard, jeune patron charismatique joué par Romain Duris, qui ne tarde pas à déceler sa grande aptitude à taper à la machine. Il décide d'ailleurs de la faire s'entraîner durement pour qu'elle participe aux championnats locaux de vitesse dactylographique. Mais devinez quoi ? L'amour ne va pas tarder à s'en mêler. Pourtant, on s'en serait pas douté. Alors, précédé d'un gros battage médiatique, Populaire est une comédie romantique sans surprise que l'on aurait aimé un petit peu plus remuante. Le but, ce n'est clairement pas de nous bousculer, mais bien de satisfaire un large public en faisant du sautillant, du sucré, de l'espiègle. La nostalgie est toujours de bon ton pour cela. Et les années 60 se prêtent volontiers à une esthétique vintage recyclée à l'infini dans le cinéma français actuel. Déborah François trouve un premier rôle à sa hauteur. Elle est parfaite en descendant de Audrey Hepburn face à un Romain Duris presque effacé, à qui le look Mad Men, en plus, il faut le dire, ne sied mais alors absolument pas. Bon, il faut cependant reconnaître que le rythme de la comédie est très bien respecté, pas de temps mort malgré les répétitions de certaines scènes, et le film réussit même son pari de rendre la dactylographie passionnante à grands coups de scènes de compétition filmées comme d'intenses moments de sprint. Cette reconstitution des 60s fantasmée est fraîche et chic, mais tout de même pour moi un peu trop girly, un peu trop craquante, un peu trop chou, trop glamour. Clairement destiné à plaire au public féminin, Populaire laisse l'histoire d'amour prendre le pas sur sa critique qui était pourtant intéressante des rapports hommes-femmes, laissant ainsi le film s'engluer dans la guimauve jusqu'à la fin. Alors à défaut de s'apparenter comme il le voudrait aux comédies américaines des années 50, le film demeure simplement un feel-good movie basique à tendance naïve. Il paraît que c'est ce que veulent les femmes, comme dirait Mel Gibson. D'accord. Donc voilà, en tout cas c'était réussi.
Donc
de ce point de vue-là.
Tu penses que ça s'adresse plus aux femmes populaires ?
Oui, clairement, oui.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, ça fait vraiment appel aux petites comédies des années 50 avec Audrey Hepburn, comme ça, où c'était toujours sur un duo, un homme, une femme, elle qui est espiègle, un peu naïve, mais assez marrante, et puis...
Et puis Romain Duris.
Et voilà, c'est exactement ça, quoi. Ça part de ce principe-là et ça veut adapter ça maintenant, en 2012, pour plaire à un public de filles et changer un petit peu des comédies romantiques classiques, quoi.
Alors c'est vrai que Romain Duris est un peu moins charmant dans Populaire qu'il ne pourrait l'être dans ses autres films. Alors, donc, il est venu présenter le film à Montpellier avec Déborah François et le réalisateur, donc Régis Roinsart. Nous étions à la conférence de presse et c'était pas évident de faire sortir quelques mots.
Il était pas éloquent.
Voilà, on l'écoute.
Je sais pas, on peut en parler, hein, mais ça va durer des heures, ça va être chiant, mais...
Mais je veux être un petit peu chiant.
Tu veux que je sois un peu chiant ?
Voilà, ça c'était une question que j'ai posée, je crois que c'était la deuxième. Moi je me suis dit, je vais le faire parler un peu, je vais lui poser une question. Voilà.
Il buvait sa coupe de champagne, il peut pas faire deux choses en même temps.
Bon, après finalement, il s'est détendu et puis il a un peu parlé. Donc on va écouter le réalisateur, essentiellement le réalisateur quand même, qui moi je trouve a fait un très bon film. En tout cas, c'est bien structuré. La recomposition des années 60, tu trouves que c'est un peu...
Ou c'est fantasmé quand même.
Mais je trouve ça finalement assez réussi. Il vaut mieux que ce soit une espèce de fantasme qu'une reconstitution. malgré tout.
Bah, enfin, moi, c'est plus vendeur.
Oui, c'est plus vendeur, mais voilà. Bon, il n'a pas essayé de respecter à la lettre, voilà, enfin, tout ce qui s'est passé. Il a fait des anachronismes, je ne sais plus s'il en sera question pendant cette interview, mais il a fait des anachronismes au niveau musical. Enfin, la bande-son, en fait, il a pris des chansons qui sont intervenues après le déroulement de l'histoire, et ainsi de suite. Enfin, voilà, il s'est amusé. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il a plutôt bien réussi son œuvre. On l'écoute avec Romain Duris.
Pendant la première manche, elles doivent taper au moins 360 caractères à la minute. Tenir toute la compétition, ça demande autant d'efforts que de couvrir un 5000 mètres.
Tapez sur des touches, moi aussi je peux le faire.
Ah oui, et dites donc ça au membre du jury.
Le jury.
Chaque phrase fausse, intervertie ou manquante, chaque mot écrit en trop, chaque interligne non respectée, c'est 100 caractères comptabilisés en moins.
Il n'y a que 16 qualifiés, en 10 minutes seulement, puis 8, puis 4.
Les deux dernières s'affrontent sur une finale de 5 minutes.
J'aimerais bien vous voir à la place de ces filles.
Elles sont sans sas.
Elles sont sans sas.
Trouver des documents, chez Gaumont, Pathé, Alina, qui m'ont montré tous ces championnats qui étaient internationaux. Mais voilà, il y a des choses qu'on oublie. Et pourquoi je ne sais pas véritablement. Peut-être parce que, en fait, avec cette course à la vitesse, et à un moment, en fait, certaines inventions, certaines choses qui ont progressé, eh ben, on s'est dit que, ben, voilà, on ne devait plus, en parler. Et puis, c'était aussi une compétition organisée par des marques de machines. Et les marques de machines, en fait, d'un seul coup, en fait, comme il y a la boule et l'électricité qui a été inventée, que les gens pouvaient aller plus vite, les concours de dactylographie ne leur servaient plus véritablement. Donc, ils ont établi, en fait, leur manière de vendre plus sur, on va dire, la légèreté des machines ou leur design que sur...
Mais il y en a toujours, tu dis.
Ouais, par contre, il y a toujours des concours de vitesse dactylographique. C'est ça qui est fou. Bah ouais.
Allez, Paulette, tape plus vite que ton ombre.
Là,
j'avais besoin d'un sport où en fait, on se disait qu'on pouvait tous le faire et on aurait pu tous participer à ces championnats. Donc en fait, final, et puis on à peu près tous, on tape sur des claviers. Donc comme ça, on pouvait plus rentrer dans ce sport puisque finalement, ça nous touchait de près.
Il y a un titre national en jeu après les régionales.
Ouais, c'est quoi le record du monde?
512 caractères à la minute. C'est une américaine qui les tient.
Fallait les dire, ouais.
Ce qui est drôle, c'est que les concours de vitesse dactylographique de maintenant sont faits en huis clos. Parce que, en fait, ça ne fait plus de bruit de taper sur un clavier, donc ça pourrait déconcentrer les sportifs. Donc on ne peut pas véritablement connaître ce sport puisqu'il n'y a pas de spectateurs.
Elle est nulle pour tout. Mais quand elle tape à la machine, elle est rapide, puissante et concentrée, tu vas voir.
Je contrôle pas, je calcule pas de carrière, ni quoi que ce soit.
Comment vous choisissez?
Je lis quelque chose et quand ça me plaît, c'est comme quand vous lisez peut-être un livre et que vous avez envie de jouer ou de vous imaginer à la peau d'un personnage. La discipline, déjà, comme je disais au départ, je trouvais ça dingue, quoi. La vitesse dactylographique, ça surprend. Et puis ensuite, le film d'époque, sur ces années-là, on a envie d'aller mettre les costumes et d'aller voir comment ça se passe, quoi. Et après, plus personnellement, sur le personnage, des traits de caractère qui me touchaient, je trouve que son trajet à lui est aussi assez touchant. Et puis, après, on discute avec Régis et j'ai vu qu'il avait... Ça pétillait dans ses yeux quand il parlait de son histoire. Il avait une énorme envie.
Mesdemoiselles, s'il vous plaît, un peu d'attention. Tout le monde en place. Attention, main au-dessus des claviers.
C'est une histoire d'amour et après, c'est deux personnages surtout. Et ça ne se résume pas à un assureur de province et à une fille d'un village. C'est quelle fille d'un village et quel assureur de province, quel est son parcours. À partir de là, en fait, et de leur richesse, là, il y a quelque chose qui peut apporter de la comédie. C'est une fille qui est cash et un type, en fait, bah, qui se ment un peu à lui-même, hein, Romain.
Exactement.
Secrétaire, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes.
Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux.
Agence Echard et fils, j'écoute.
Elle est comment alors?
Vous êtes une secrétaire lamentable.
La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine.
Enfin, taper à la machine, c'est le minimum pour une secrétaire.
Dans cette espèce de rythme. Par rapport à une comédie comme celle-là, où ça speed, en plus les championnats, il y a du suspense, il y a du sport, c'est quand même, il y a quand même quelques moments où on peut justement se poser et voir que tout n'est pas rose, nickel, et tout n'est pas simple, voilà. Et le personnage de Louis, il a des trucs en lui, très personnels, très intimes, qui sont assez complexes, et parfois il a un tempérament qui peut surprendre, et il peut se fermer, enfin voilà, je veux dire par là qu'il y a de la vie, on n'est pas simplement dans des codes pour faire avancer le sport, vous voyez ce que je veux dire.
C'est un personnage il y a une tension en fait, il a des fulgurances, et j'aime bien en fait ce genre de personnage en fait, qui d'un seul coup, voilà, tu ne sais pas exactement pourquoi en fait ils font ça, et puis après ça s'explique ou ça ne s'explique pas, mais parce que parfois voilà, on fait des erreurs, où il y a des moments où en fait on peut être violent sur quelque chose, et c'est l'aboutissement de pas mal de choses qu'on a vécues.
Je ne pense tout simplement pas que votre avenir soit auprès de moi, à moins que vous acceptiez de faire un petit quelque chose.
Si vous pensez que c'est aussi facile que ça de m'avoir dans son lit.
C'est là que je veux, pas dans mon lit.
Participer à un concours.
Pas participer, gagner. Je vous entraîne, je prends tout en charge.
Vite.
Je vous installe chez moi.
On se croirait dans le temps n'importe le vent.
Tu crois vraiment que je vais lui donner des cours de piano? Tu lui plais, Louis?
Elle te plaît. Rose ne doit penser qu'au championnat. Elle se rend pas compte du don qu'elle a. Je peux mettre le monde à ses pieds.
Monsieur le directeur, quand même on le savoir. Vous êtes ma plus belle arme, vous savez, les dents, qui elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à l'idée de l'arbre. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis, les dactylorap.
Voilà, recomposition un peu des années 60. Alors effectivement, comme tu le disais, Marine, un peu fantasmée. C'est populaire, c'est sorti la semaine dernière, c'est avec Romain Duris, Déborah François, voilà, donc on retiendra que c'est une comédie pas forcément audacieuse, effectivement, hein, puisque les rapports hommes-femmes sont, enfin voilà, sont assez figés, mais bon, les années 60 avaient peut-être ce côté-là, quoi. Côté
mais ils auraient pu justement mettre ça en avant et traiter ça avec humour. Ça aurait été assez drôle, justement, de voir ces codes hommes-femmes, etc., comment c'était, ils auraient pu en rire, mais bon... Bon, ça sera une comédie populaire, je pense. Après, voilà. À voir, est-ce que ça va vraiment marcher, mais en tout cas, ça a tout pour. Ça a tout
pourrait,
pour plaire.
Ça pourrait. Voilà, c'était à peu près dans tous les cinémas. On va passer à tout autre chose, un des premiers films 3D en relief.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
L'étrange créature du lac noir, The Swamp Things, je crois, en VO. Donc tous les cinéphiles amoureux de l'âge d'or du fantastique. Alors avant de parler du film proprement dit, je vais faire un peu de pub pour le coffret qu'ils ont sorti. Voilà, tous les amoureux, ils viennent de sortir donc un coffret en forme de cercueil regroupant 8 grands classiques incontournables, dont La Momie, Dracula, Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, L'homme invisible, Loup-garou, Le fantôme de l'opéra et bien sûr L'étrange créature du lac noir, disponible en plus dans ces deux versions, en 3D et puis en version normale.
En fait. Ça fait quand même 3 semaines qu'ils nous en parlent.
Hein. Oui, mais parce que j'aimerais déjà vanter la restauration en Blu-ray de ces films enfin dispo dans des copies vraiment magnifiques. Ouais. Mais surtout, c'est que je l'avais déjà acheté au début des années 90 en VHS dans un coffret qui avait dû me coûter 400 francs à l'époque. Puis 3 ans après, je les ai rachetés tous en DVD. Et là, j'ai craqué, je les ai rachetés en
coffret
Blu-ray. En coffret Blu-ray. Et donc, en plus, l'étrange créature du lac noir, donc dispo dans ce coffret, elle ressort aussi dans sa copie 3D. Mais là, le problème, c'est qu'il faut... alors, pour le DVD, il faut aussi disposer d'un lecteur Blu-ray 3D. Et d'un téléviseur, non.
Ah bon ?
Uniquement le lecteur Blu-ray 3D avec les lunettes. Bon, j'ai pas encore craqué, mais j'ai pensé à l'acheter le lecteur. Mais ça viendra plus tard. Donc je peux pas vraiment parler du relief en espérant que le film puisse sortir en salle à Montpellier et apparemment ça vaut le coup, notamment pour les séquences sous-marines qui paraît-il sont vraiment très très belles en relief. Et pourtant au début des années 80, quand Marine n'était pas encore née, non, je pense que t'étais pas née.
Comment le sais-tu ?
Le film de Jack Arnold, il est passé à la télé à la dernière séance, l'émission culte d'Eddie Mitchell. Et pour le voir en 3D, il fallait donc acheter soit Télé 7 jours, Télé Poche, Télé Z. Et comme chez moi, parce que quand on a des parents de gauche, bah, ces journaux étaient proscrits. Donc j'avais Télérama et pas de lunettes en 3D, donc j'ai pas pu voir le film.
Moi, je l'ai vu.
Tu l'as vu, toi? Oui. T'as eu de la chance.
Ouais, hein. Moi, je suis né avant les années 80. Voilà.
Bon, cet aparté souligne la cruauté du sort qui s'acharne sur moi. Je n'aurai jamais ce film en 3D et je prie pour qu'il passe vraiment sur Montpellier. Et le film dans tout ça, que vaut-il 58 ans après sa réalisation? Donc, sans forcer l'aspect nostalgique, je dirais que L'étrange créature du lac noir est vraiment une excellente série B qui parvient à s'élever largement au-dessus des films de monstres classiques, déjà par le regard humaniste que pose Jacques Arnold sur sa créature. En reprenant grosso modo la trame narrative de King Kong, les scénaristes ont fait le bon choix de ne pas chercher l'effet choc et la peur à tout prix. Car finalement, avec le temps, les effets spéciaux vieillissent et les effets des films des années 50 se diluent en fait vachement avec le temps. En revanche, le point de vue adopté par les auteurs privilégie l'émotion, en témoigne cette séquence toujours aussi émouvante où la créature nage à côté de la jeune femme, sans chercher d'ailleurs à l'attraper, juste pour l'observer et nager auprès d'elle, et sans qu'elle s'en rende compte. Il y a une forme de chorégraphie un peu érotique qui s'échappe de cet instant assez magique. Et plus le récit progresse, et plus le monstre est cailleux, entre le lézard et l'iguane, il devient attachant, et à contrario, les personnages humains se révèlent plutôt déplaisants, pour la plupart. Hein. Sauf la jeune et jolie fille, évidemment, dont la créature tombe amoureuse. Donc à l'instar de King Kong, le message est clair. Le bourreau devient la victime de la bêtise humaine. Sa soif idiote de découverte et de conquête, rien ne serait arrivé si on l'avait laissé en paix.
Pourquoi avoir tiré? Il ne vous a rien fait.
À vous entendre, on dirait que je vous ai harponné. Et à quoi ça pourrait bien nous servir de jouer à cache-cache avec cette créature?
On en saura davantage si on la capture vivante.
Je vous en prie, dites-nous ce que vous avez découvert.
Je ne sais pas quel nom lui donner.
C'est incroyable, mais elle a l'air vraiment humain.
Sincèrement, si l'on se fie à ce que l'on a pu voir, c'est une découverte majeure. On peut dire que c'est incomparable.
On va regarder, j'ai des preuves dans l'appareil.
Avec un tout petit budget, finalement, Jacques Arnaud n'évite pas toujours les pièges du cinéma de monstres. Il y a un prologue un peu longuet, plombé par des dialogues pseudo-scientifiques plutôt archaïques, des personnages plutôt archétypaux, pas très intéressants. Le déroulement de l'histoire, linéaire et sans surprise, n'est finalement pas l'intérêt de ce petit classique, très bien réalisé, bénéficiant de magnifiques décors naturels, de belles séquences maritimes et d'une très très belle photographie brumeuse, parfaitement adéquate avec l'esprit du film. Voilà, Jack Arnold signera néanmoins, à mon sens, aussi deux films qui sont très supérieurs, l'excellent Tarantula, et surtout un chef-d'œuvre absolu, à mon sens, c'est L'homme qui rétrécit, d'après le bouquin de Matheson. Donc L'étrange créature du lac noir engendrera deux suites, Le retour de la créature du lac noir et La créature est parmi nous. Jack Arnold réalisera que Le retour. Donc il faut juste aussi savoir que deux comédiens ont filé le costume. Il y en a un qui l'a enfilé sur la terre et l'autre pour les séquences maritimes parce que il s'appelle Rico Browning parce que c'était un excellent nageur. Et ce fameux Rico Browning deviendra l'un des réalisateurs de fétiche de la série Flipper le Dauphin.
Mais c'est que quand même important.
Tout est lié.
Voilà. Oh là là, merveilleux. Allez, on se quitte avec un extrait.
Il y a des années, on m'a raconté une légende. Un très vieil indigène m'avait parlé d'un homme vivant sous l'eau. Mais la créature était folle. Goule la folle, c'est comme ça qu'il l'appelait.
Il nous est toujours très difficile d'accepter l'invisible.
On accepte si ce sont des légendes. De là à croire qu'une sorte d'être humain existe et a la faculté de pouvoir vivre sous l'eau, n'exagérons pas.
Ouais, c'est loin d'être une légende, vous allez vite vous en apercevoir.
Vous oubliez le Camongo. La science ne l'a découvert que très récemment, en fait. Et le Camongo vivait à l'époque de l'ère dévonienne.
C'est intéressant, car le fossile que j'ai trouvé date de la même période.
Le Camongo était un poisson qui respirait à l'air libre.
Oui, et qu'est-ce que ça prouve?
Rien du tout. Sauf que le Camongo, qui a des poumons, existe encore aujourd'hui en Amazonie. Et il n'a pas changé depuis des millions d'années.
Et alors, ça ne prouve pas qu'un homme à branchies existe bien?
Si l'évolution de cette espèce s'est arrêtée et que ce manque d'évolution ne l'a pas empêché de survivre, pourquoi pas une autre?
Et voilà, beaucoup de rire dans Cinérama. La créature du lac noir est disponible en DVD Blu-ray.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
C'est l'agenda avec demain, jeudi 6 décembre à 20h. C'est la 4e édition de Plein Écran avec Fanny et Alexandre Dingmar. Quoi? Pourquoi tu me regardes, Manu, comme ça? Tu m'inquiètes des fois?
Parce que je veux aller voir Fanny et Alexandre.
Réglez vos problèmes une fois que l'émission sera terminée, s'il vous plaît.
C'est pas la première fois qu'il me fait peur pendant l'agenda. Alors, donc, Fanny et Alexandre Dingmar Bergman, c'est présenté par Marion Poisson, qui est maître de conférence à l'université Paul Valéry. En plus, il regarde ce que j'ai écrit. Au Gaumont, le 6 décembre, il y aura Connaissance du monde avec Océan Indien, Réunion, Maurice, Seychelles. C'est une séance exceptionnelle en présence d'Antoine. C'est à 19h30. Il faudra choisir entre Berman et Antoine.
Antoine du Diago.
Antoine,
Antoine,
le Antoine, lui, qui chantait, plus exactement. Celui qui chantait, effectivement. Le dimanche 9 décembre, c'est une avant-première, mais c'est à 11h. C'est L'homme qui rit de Jean-Pierre Améris, c'est au Diagonal. Le lundi 10, encore une avant-première, Foxfire, je pense, confession d'un gang de filles.
Qu'on ira voir,
film de Laurent Cantet.
Qu'on interviewera.
Voilà, et Laurent Cantet, pour le public, sera présent le soir à 20h. Le lendemain, mardi 11 décembre, à 20h30, cette fois-ci, eh bien, c'est à l'Utopia, c'est dans le cadre de Ciné Campus, projection de Eighth Wonderland, en présence de Jean Mac,
ouais.
Ouais. Co-réalisateur et voilà, bah, c'est un ancien aussi, enfin c'est quelqu'un de Montpellier tout simplement. Donc il sera présent. Et puis mardi 11, la trilogie en VO sous-titrée, eh bien, du Seigneur des Anneaux commencera à 12h, 15h45 et 20h, ce sera au Gaumont Multiplex. Et puis après, eh bien, il y aura la sortie, eh bien, de Hobbit, le dernier Peter Jackson. Ce sera à minuit 5, donc ce sera mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Oh. Eh oui, minuit 5
oh,
et 3h.
Le grand chelem, quoi. Oh,
et ce
le
sera
marathon.
Ce sera une projection spéciale en HFR 3D. Voilà, unique à Montpellier, qu'on se le dise.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'est Cinérama qui s'achève.
Décalement, parce que...
On remercie Bruno à la technique.
Et juste après ces 24 notes secondes consacrées à Ridley Scott. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.